Paddock RMC, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, le Paddock RMC, c'est un podcast avant chaque week-end de course et pour débriefer les 24 Grands Prix de la saison. Quatrième manche en prévision à Bahreïn, les pilotes sont arrivés. Vous savez qu'on enregistre ce podcast le jeudi, c'est jour de conférence de presse. On a vu Lando Norris dans une petite tenue assez sympathique arriver dans le paddock. Il y a plein de choses encore à dire. Je vous rappelle que vous pouvez bien évidemment noter ce podcast sur toutes les plateformes de téléchargement, que le débrief du Grand Prix du Japon est en ligne. Ça fait que 3 jours qu'il est en ligne parce qu'on est dans une période de folie pour la Formule 1. On enchaîne 3 courses en 3 semaines, hein. Le Japon, Bahreïn et la semaine prochaine l'Arabie Saoudite. Donc restez connectés parce qu'il y a des paddocks qui sortent tous les 4 jours. Les ingénieurs pour ce warm-up du Grand Prix du Bahreïn, Alex Caldi et Louis Gerbier. Salut les gars.
Salut Nico. Hello. Salut Alex, salut tout le monde.
Bah, Loulou, tu sors de ta période de jardinage toi. Deux ouais. Semaines et demie sans oh. Paddock, ça et fait bizarre
ouais.
Hein.
Ouais, je suis allé faire de la fraîcheur.
Ah, t'es allé au ski quoi.
Ouais,
c'est
voilà,
ça que
exactement,
tu veux dire.
Exactement.
Les pilotes de Formule 1 n'ont pas le droit d'aller au ski. Hein. J'imagine que dans leur contrat, ça doit être.
Bah, sans être trop cynique, le dernier qui y est allé.
Ouais. Bah, ah ouais, Leclerc et Hamilton, ils skient.
Ouais, Leclerc et Hamilton, ils sont allés hein, tranquillement.
Oui, ah c'est ouais, vrai, en plus, Hamilton, il y va. Ouais, ouais. Et puis Leclerc, il fait pas mal de ski de rando l'hiver.
Bah, attends, mais c'est incroyable ça. Mais s'ils se pètent une jambe, là, les assurances, j'imagine pas combien ça doit coûter. Enfin bon. Les gars, Grand Prix de Bahreïn, circuit qu'on connaît très bien. On va se plonger sur ce tracé, des conditions qui s'annoncent très chaudes ce week-end. Oscar Piastri était en conférence de presse, il est revenu sur les perfs des McLaren et puis on va se pencher un petit peu sur les équipes du midfield, du bas de tableau dont on a peu parlé depuis le début de saison, les débuts de Carlos Sainz avec Williams notamment, Aston Martin aussi qui est au fond du seau. On se demande si Adrian Newey d'ailleurs va pas revenir filer un petit coup de main à l'écurie là pour la fin de saison, tellement c'est catastrophique. Donc il y a plein de choses à dire, c'est parti pour ce warm-up du Grand Prix de Bahreïn. Alex, circuit qu'on connaît parfaitement désormais, Bahreïn, c'est là qu'il y a eu les essais hivernaux. Je regardais le nombre de dépassements l'an dernier, 66 dépassements en 2024 sur circuit, ouais. C'est une piste qui est très appréciée par les pilotes. Je vais vous donner les horaires de ce Grand Prix déjà. On retrouve des horaires cool pour les fans de Formule 1 hein, avec la première séance d'essais demain à 13h30, la deuxième à 17h, samedi les qualifs, ce sera à 18h et la course à 17h. Bien sûr, les qualifs et la course à suivre en direct sur RMC avec notre team principal Jean-Luc Roy. Les deux derniers vainqueurs du Grand Prix de Bahreïn, bah c'est Max Verstappen, c'est lui qui a gagné les deux dernières éditions. Charles Leclerc tiens, l'a emporté en 2022, Verstappen a gagné 3 fois là-bas. Mais Leclerc a réussi à s'intercaler en 2022 pour aller grappiller la pole et la victoire. Voilà un peu pour les enseignements de ce circuit à Sakhir. Alex, on attend des conditions météo très très chaudes là pour la première fois depuis le début de la saison. Ça peut changer pas mal de choses. Hein.
Ouais, ça peut changer pas mal de choses. Moi, ce qui va être intéressant de regarder plutôt par rapport à ce circuit de Bahreïn, c'est un circuit de test et beaucoup d'écuries vont apporter leurs premières améliorations majeures sur ce début de saison 2025 de Formule 1. À commencer par une écurie qu'on attendait mieux sur ce début de saison, bah, c'est la Skoda Ferrari. Et Ferrari va apporter, il me semble, un nouveau plancher, un nouvel aileron arrière. Et c'est parfait pour le tester à Bahreïn, qui est le circuit des essais hivernaux. C'est un circuit qui est très bien pour notamment comprendre l'évolution des pneumatiques. Il y a beaucoup de grip, il y a beaucoup d'abrasivité au niveau de la piste. Les pneumatiques vont être beaucoup mis en travail durant ce Grand Prix. Pirelli par exemple apporte ses pneus les plus durs pour ce Grand Prix. Donc dans la globalité, ça va être hyper intéressant de voir comment les améliorations de toutes les écuries vont arriver à Bahreïn, sachant qu'on est en plein milieu d'un triple header. Donc ça va être un peu un juge de paix dans ce début de saison Bahreïn.
C'est vrai qu'il y a des écuries qui attendent pas mal d'évolution, notamment Ferrari. On en parlait là lundi lors du débrief. Louis, Bahreïn, c'est un Grand Prix que t'aimes bien. C'est toujours assez spectaculaire. Hein.
Ouais, c'est un Grand Prix en plus que je trouve assez complet dans le sens où c'est une belle qualif, c'est un beau circuit de qualif, je trouve. Et puis comme tu dis, c'est loin d'être soporifique le dimanche. Globalement, on voit des choses. Donc souvent un bon week-end. J'ai hâte de voir ça. Surtout, vous en avez très bien parlé lundi, mais surtout après un peu la purge, c'est un peu fort. Mais on va dire le Grand Prix pas ouf du week-end dernier. Là, j'ai envie de voir de l'action. Mais surtout le virage 4 a été un petit peu remodelé. Alors pour les gens qui voient pas lequel c'est vraiment une espèce d'épingle bizarre dans laquelle les pilotes avaient tendance à aller mordre, voire complètement dépasser les limites de la piste pour perdre le moins de temps possible, évidemment. Apparemment, ça a été un peu remodelé pour que ça soit plus possible. Donc ça, ça va être très intéressant sur le côté pilotage. Et puis en course, il va falloir, on va en parler tout à l'heure, mais que certains se réveillent, que ça soit des écuries ou des pilotes aussi. Je pense en particulier à Sainz qui, pour le moment, n'est pas sur un début de saison optimal.
Ouais, on va revenir sur Carlos Sainz. Oscar Piastri était en conférence de presse, les gars, pilote McLaren, la conférence de presse qui vient de se terminer au moment où on enregistre ce podcast. Donc on n'a pas de son à vous proposer pour l'instant parce que c'était trop court pour les extraire et pour vous les diffuser. Oscar Piastri, Alex, qui a dit que assez lucide, que pour l'instant McLaren avait la meilleure voiture, mais que l'écart avait tendance à se resserrer, et notamment en qualification, où il dit maintenant en qualif, il faut absolument qu'on soit à 150% pour être devant, parce que ça se resserre vraiment sur un seul tour. Donc voilà, il a conscience, Piastri, que l'écart est en train de se resserrer, en tout cas c'est son impression du moment.
Et c'est ce qu'on disait justement après le Grand Prix du Japon, il fallait absolument que McLaren maximise sur ce début de saison le dimanche en prenant le plus de points possible, notamment avec ce qui s'est passé au Japon avec l'erreur stratégique de McLaren, où ça perdait des points forcément sur Max Verstappen, parce qu'au-delà même de la course, sur la séance de qualification, le rythme pur et le potentiel pur de la monoplace, on voit que ceux qui font le plus d'erreurs en qualif avec la monoplace qui est capable d'aller chercher la pole, c'est clairement McLaren. George Russell, il me semble, en chien, était extrêmement proche d'aller chercher la pole position contre les McLaren. Là, ça a été Max Verstappen au Japon qui est venu battre les McLaren, parce que je pense qu'au-delà de la performance incroyable de Max Verstappen, c'est surtout les pilotes McLaren qui manquaient de réussite pour pouvoir mettre tout bout à bout sur un tour entier. Donc oui, il a raison, ce qu'a Piastri, de dire ça, et je suis très intéressé de voir comment sur le rythme de course, avec les améliorations des autres écuries, ça va pouvoir se resserrer. C'est pour ça que ce Grand Prix de Bahreïn est au-delà même d'être le 4e Grand Prix de cette saison, il est surtout peut-être le premier Grand Prix d'un nouveau début de saison qui arrive en 2025.
Ouais, c'est ça, c'est le premier tournant un peu de cette saison, Louis. On a la sensation que ça peut être ça, Bahreïn.
C'est ça, c'est là où, donc, comme l'a dit Alex, arrivent les premiers packages. C'est là où la hiérarchie qui s'est clairement dessinée, ou plus ou moins clairement selon de ce début de saison, peut être un petit peu bousculée, puisque justement on arrive avec des nouveaux packages et en même temps des pilotes qui ont pris quelques claques et se disent bon, là faut y aller, parce que en fait en F1, si tu fais plus de 3 courses moyennes, tu commences à être pointé du doigt très vite, donc faut réagir. Donc c'est ça qui est très très haletant pour ce week-end, et en espérant sur un point de vue, vous savez, personnel, que Ferrari justement repointe un peu le bout de son nez tout là-haut, parce que
et toi t'es au fond du saut, c'est pour ça que t'es parti au ski. En fait, t'en peux plus ce début de saison.
J'avais vraiment besoin de couper.
Partir en retraite.
Non, parce que moi, on m'a vendu une saison après les essais, donc Ferrari devait vraiment être dans le coup, et puis Alpine devait être best of the rest 4-5 courses après. On en est où? Les comptes sont pas bons du tout là, donc c'est vrai que sur ce plan là tu vois, moi sur ce que je suis, on va dire plus particulièrement, il y a de grosses attentes sur Bahreïn. Et puis après c'est vrai que McLaren, pour revenir à ce que disait Piastri, c'est aussi toujours ce que nous dit Jean-Luc. Celui qui a la bagnole la plus rapide, il dit toujours que les autres se rapprochent et que c'est en fait c'est pas si simple d'être premier. Et ceux qui ont les autres voitures disent toujours ah là là, mais les autres ils ont une fusée elle est impossible à rattraper. Et c'est un peu le jeu, parce qu'évidemment tu veux toujours faire un peu d'intox aussi. Et Piastri a aucun intérêt à dire que ils se sont complètement ratés et que sinon ils auraient eu 2 secondes d'avance. Ce qui n'est pas le cas, mais tu vois ce que je veux dire.
Du coup, Alex, comment tu sens ce week-end là, en termes de perfo? Ferrari se comporte plutôt bien d'habitude sur ce circuit-là. Donc ça peut être pour eux l'occasion vraiment de se rapprocher, surtout on le disait, avec des évolutions et un nouveau package qui arrive. Tu vois quand même McLaren au-dessus encore là pour Bahreïn?
Bah, je suis très curieux. C'est très difficile de prévenir ce Grand Prix de Bahreïn. Déjà une chose, c'est un circuit que tout le monde connaît, que tous les pilotes connaissent, que c'est toutes vrai. Les écuries connaissent. Donc c'est très dur de pouvoir en ressortir en disant « Ah, il peut y avoir des surprises vis-à-vis d'une écurie qui peut s'effondrer ». Non, je vois surtout que toutes les écuries vont s'améliorer justement sur ce circuit de Bahreïn où il n'y aura pas trop d'incertitudes. Pour ce qui est de la bataille Ferrari, même peut-être potentiellement McLaren, on attend que ces améliorations soient quand même assez majeures chez Ferrari. Alors, je ne vais pas donner trop d'espoir non plus, mais on est sur un début de saison qui était inattendu. De toute façon, pour la Scuderia, ils sont déjà à 76 points de McLaren. C'était une énorme faute aujourd'hui que McLaren soit que Ferrari ait un aussi large retard sur McLaren. Donc, s'il y a beaucoup d'espoir, et comme le pressent, on va dire ça ainsi, et comme le prédit plutôt la Scuderia Ferrari, même s'il faut être toujours prudent, je pense que Ferrari peut retourner la situation et en Grand Prix dimanche, peut aller chercher d'ailleurs ne serait-ce que son premier podium cette saison. Il faut savoir que Ferrari est le seul top team aujourd'hui à ne pas avoir fait de première ligne et également de podium sur cette saison 25 de Formule 1. Donc c'est là où aujourd'hui Ferrari est au pied du mur et Ferrari doit se relever. Ferrari peut se relever avec ses améliorations, un nouveau plancher, un nouvel aileron arrière notamment, et aussi des pièces à l'intérieur de la voiture qui sont nouvelles. Donc on est un peu sur une refonte chez Ferrari qui me permet d'avoir beaucoup de confiance par rapport à avant même samedi, mais surtout dimanche.
Ils sont loin, les copains de chez Ferrari, au classement constructeur, 4e, 35 points. McLaren a déjà 111 points. Red Bull, qui est 3e, a quasiment le double de points de la Scuderia. Donc, il faut absolument engranger des points et surtout en prendre assez concurrents. Voilà un peu pour le haut de tableau. Les gars, parlons un petit peu, profitons là de ces warm-up en milieu de semaine avant les Grands Prix pour se pencher sur les écuries dont on parle pas trop parce qu'elles font un début de saison, je vais pas dire anonyme, c'est fort, mais en tout cas, soit assez décevant, soit rangé tranquillement dans le milieu du peloton. Je voulais qu'on parle de Williams parce qu'il y a un contraste, Louis, chez Williams. C'est ce qu'arrive à faire Alex Albon, qui est très bon depuis le début de saison, qui termine 3 fois dans le top 10, et Carlos Sainz, qu'on attendait comme le pilote qui allait propulser Williams potentiellement, j'allais dire pour chatouiller peut-être les quatre top teams, peut-être pas, mais en tout cas comme cinquième force du plateau et s'affirmer comme cinquième force du plateau. Et c'est très compliqué ce début de saison pour Sainz.
Ah oui, c'est très compliqué. Plusieurs facteurs, plusieurs hypothèses plutôt. Soit il a été ces derniers temps chez Ferrari un peu surcoté. Soit tout simplement on est sur une adaptation, parce que tu vois aussi Hamilton n'écrase pas Leclerc ou quoi, tu découvres une nouvelle voiture, t'as beau avoir Sainz, je crois qu'il est autour de mon âge, il doit avoir une petite trentaine, il est un peu plus jeune je crois, il doit avoir 29-30, donc c'est quand même un pilote confirmé, mais malgré tout c'est une nouvelle auto, donc il y a une adaptation qui a l'air nécessaire. En tout cas lui, c'est vraiment l'hypothèse qu'il met en avant. Il parle vraiment de il dit chaque tour que je fais dans la voiture, je vais être de plus en plus rapide, j'apprends à chaque tour, il y a un peu de réglage, un peu d'habitude, des réflexes à prendre. Il n'est pas inquiet, en tout cas c'est ce qu'il dit, mais il faut qu'en tout cas les gens commencent à être inquiets pour lui si lui il n'est pas inquiet, donc il va falloir réagir. En plus on est face à Albon qui a une cote on va dire tout à fait correcte dans le paddock, mais qui est pas non plus qui a quand même souffert de son éviction à Red Bull et qui depuis est classé comme un très bon pilote de sa génération, mais peut-être pas le crack, peut-être pas un chapeau 1 comme on dit à l'after. Et donc il souffre aussi de la comparaison, parce que quand tu te fais bien balader par un gars qui est pas non plus le meilleur du monde, ouais, il va falloir réagir. C'est pas simple. T'es pas dans une voiture non plus, peut-être hyper facile. Tu vas faire du midfield toute la saison. C'est aussi peut-être des choses qu'il avait un peu oublié, rouler dans le midfield. Il a roulé plutôt en haut de, en tête de Grand Prix ces derniers temps. C'est peut-être un peu tout ça, ou c'est peut-être tout simplement qu'il est pas si fort. À vous de vous faire une idée.
Je pense qu'il peut
vraiment revenir. On sait aussi que c'est un gars qui est assez, comment dire, il y a des hauts et des bas. Tu sais, c'est un grand 8 un peu la carrière de Carlos. Il va te faire des trucs de fou pendant quelques grands prix. Tu te dis, attends, mais il est plus fort que Leclerc. Il gagne là. Mais en fait, il est trop chaud. Et puis derrière, il va te serrer en FP2 et faire une grosse boulette en grand prix, tu vois. Donc, c'est peut-être juste ça. C'est peut-être une mauvaise passe. On espère pour lui. Moi, j'ai rien contre Carlos.
Je vous donne le classement là de Sainz, enfin les classements sur les trois premières courses. Non classé en Australie, 10e, mais avec les deux qualifs des Ferrari en Chine, et 14e le week-end dernier à Suzuka, alors que Alex Albon fait 5e en Australie, en Chine 7e, et au Japon, Albon il est 9e. Donc à chaque fois dans les points, il y a une vraie différentielle de points, Alex. En fait, c'est la comparaison entre les deux qui fait tâche. En plus, on sait que la Williams, elle est plutôt rapide, notamment en ligne droite, Alex. Ils ont bien bossé sur l'intersaison, Williams.
Ouais, ils ont bien bossé sur l'intersaison parce qu'ils ont aussi remodelé leur business model, on va dire ça ainsi, avec beaucoup de sponsors qui arrivent, donc beaucoup de confiance qui est apportée sur l'avenir. Et c'est pour ça aussi que Carlos Sainz a choisi Williams plutôt que notamment le projet, par exemple, Audi, qui est un projet constructeur en Formule 1. Pourtant, il a dit non, je veux pas y aller, je préfère aller du côté de chez Williams parce que j'ai plus de certitude que vis-à-vis notamment de 2026, je peux avoir une bonne voiture et un bon moteur, surtout pour être dans les clous, pour potentiellement aller chercher plusieurs places dans les points, et potentiellement aussi pour Williams au vu du projet, aller regarder pour aller chercher des podiums. Et en fait, c'est de là où je veux en venir, c'est-à-dire que Carlos Sainz, c'est pas aujourd'hui qu'il faut le juger, c'est aller au bout de la mi-saison et peut-être post-mi-saison, j'ai envie de dire ça, parce que même lui le dit, il dit Carlos Sainz, si vous attendez du meilleur de Carlos Sainz à partir de la troisième course dans une toute nouvelle voiture, vous ne comprenez pas vraiment très très bien ce sport. Et je le rejoins, parce qu'il faut pas non plus attendre trop de Carlos Sainz, qui passe quand même de l'écurie la plus historique de la grille, qu'est la Scuderia Ferrari, à Williams, où c'est une totale nouvelle manière de travailler, pas du tout le même niveau de standing, même d'ailleurs en termes de qualité de travail, ça se vérifie forcément par la voiture. Donc c'est tout un tout nouvel environnement qu'il faut apprendre pour Carlos Sainz. Donc j'en suis en rien étonné et même inquiet de ce qui se passe pour Carlos Sainz. Tout au contraire, je trouve juste ça normal. Et par contre, si à la mi-saison, je suis d'accord, ça reste toujours ainsi pour Carlos Sainz, là on pourra vraiment s'inquiéter.
Ouais, nouveau moteur.
Tiens, la réaction
aussi,
d'Alex Albon.
Comme Hamilton, excuse-moi Nico.
Parce qu'Alex Albon est en conférence de presse actuellement et
priorité au direct,
bien évidemment. On est sur RMC, les gars. On fait du hard news, nous, dans le paddock RMC. Ah oui. Je vous cite un peu ses propos. Je ne pense pas que nous allons être lents ici. Carlos a été particulièrement fort lors des essais un petit peu plus tôt dans l'année. Et ça, c'est vrai. C'est vrai qu'on se souvient, lui, que Sainz avait été ultra performant, même s'il faisait 20 degrés de moins que ce week-end. Il dit, Albon, il poursuit en disant que, mine de rien, ça va être la quatrième course sur quatre pistes très différentes et que pour l'instant la voiture s'est super bien comportée lors des trois premiers Grands Prix, donc ils sont très optimistes et que même si ils ont conscience que le week-end va être assez resserré parce qu'il y a des équipes qui arrivent avec des évolutions, ils ont toujours l'objectif de marquer des points à chaque course. Tu sens quand même de la confiance là dans ces propos à Albon, hein.
On sent quand même que la voiture elle a passé un cap, elle est dans les points avec un pilote à chaque Grand Prix. Quand tu penses à la dernière décennie Williams, c'est très bien, enfin tu vois, on est vraiment sur l'ère James Wolff là qui commence à payer. Ça, c'est tout le sérieux est revenu dans cette écurie. Ça a mis du temps parce qu'il a fallu un développement dingue. Il le disait en arrivant que c'était archaïque par rapport à ce qu'il connaissait chez Mercedes et que il fallait une remise à niveau. Donc ça prend du temps, une remise à niveau. Déjà quand tu es au niveau, ça prend un temps fou de juste faire une mise à jour de ta voiture, une amélioration. Alors t'imagines quand t'es pas à niveau, rattraper le temps perdu et derrière, redevenir compétitif. Donc voilà, et je pense que c'est aussi ça qui rend aussi assez frustrant les performances en demi-teinte de Carlos Sainz, c'est qu'on se dit, on sait quand même ce que vaut ce pilote. et la voiture a peut-être jamais été aussi bonne. On a envie de voir des belles courses avec Williams, de les voir en haut. Et pour l'instant, c'est Alex qui fait ça. Et Alex, ça fait quoi? Ça va faire un petit moment maintenant qu'il est derrière le volant de la Williams. 3 ans au moins.
Ouais, j'allais dire 3e saison. Mais
je rappelle que tu parlais de confiance. Ouais, tu parlais de cette histoire de remise à niveau de l'écurie. On rappelle quand même que James Vowles avait révélé mi-saison 2024, début de saison 2024, le 24 mars, que Williams utilisait encore des fichiers Excel pour gérer 20 000 pièces de voiture.
Contrairement
aux autres écuries qui ont forcément des data centers et ainsi de suite pour tout contrôler. Quoi.
Ça paraît.
Moi, je fais encore tout avec Excel. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis has-been, c'est ça? Qu'est-ce que vous avez?
Non, t'es pas has-been. T'es pas dans les points, quoi. C'est tout.
Tu gères pas une équipe de Formule 1.
C'est pas faux. Je vous rappelle quand même que Williams est 5e au classement là, des constructeurs. Hein, donc, c'est les meilleurs des autres et qu'ils ont déjà 19 points. C'est 4 de plus que Haas. L'an dernier, ils avaient récolté 17 points sur l'ensemble de la saison. Déjà fait mieux au bout de 3 courses, Alex, qu'en une année 2024. La progression, elle est quand même très solide.
Ouais, ça marque une grosse progression parce que dans le sport de haut niveau et en particulier en Formule 1, ce qui prime dans l'ère moderne de la Formule 1, c'est le fait d'être régulier. Et je trouve qu'Alexander Albon, c'est ce qu'il symbolise sur ce début de saison, parce que quand tu regardes, t'as quand même, pour aller chercher le top 10, tu dois composer avec déjà 2 McLaren, normalement 2 Red Bull, bien sûr, et tu as également 2 Mercedes et 2 Ferrari, presque la 8e et la 9e place à aller chercher. Ouais. Tu dois donc batailler, si tu comptes bien, avec Haas qui fait un début de saison qui est assez en dents de scie, on en reparlera forcément. Normalement Aston Martin qui devrait jouer ça, Racing Bulls, tu as Sauber aussi qui a élevé aussi son niveau de jeu. Donc pour Alexander Albon, réussir à être le meilleur même du midfield, j'ai envie de dire ça ainsi, avec Isaac Hadjar, c'est quand même l'un des débuts de saison, je pense, on en parle le moins, alors que c'est certainement celui qui mériterait le plus qu'on en parle.
Ouais, c'est vrai. C'est pas faux.
Mais parce qu'il n'est pas non plus show-off, il est dans une écurie pas non plus comme ça. Ça bosse et ça bosse bien depuis un moment et c'est vrai qu'on se réveille à leur sujet après quelques bonnes perfs, mais ça fait quelques années maintenant et ça fait plaisir, c'est cool. J'espère juste que ça va pouvoir aller plus loin parce qu'à un moment il y aura peut-être un plafond de verre au niveau budgétaire et tout ça, quoi.
Ouais, c'est clair.
C'est clair. Les gars, analysons un peu ce début de saison d'Aston Martin. Là, je regardais 10 points seulement au championnat du monde constructeur. Vraiment la sensation que cette écurie, depuis qu'elle a, depuis 2-3 ans, va vers, s'enfonce, j'allais dire s'enfonce, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas...
léthargie.
Ouais, voilà, c'est léthargie. Ça. Il ne se passe pas grand-chose, encéphalogramme assez plat. 10 points cette saison, tous pris par Lance Stroll. Fernando Alonso qui a enfin terminé une course, mais qui est complètement absent depuis le début de saison. Stroll en plus qui a mis 8 points en Australie grâce à une super conduite sous la pluie. Est-ce que c'est inquiétant, Louis, là, ce début de saison d'Aston Martin? Qu'est-ce qu'on attend de cette écurie? Ça peut potentiellement être le premier team qui fait totalement la passe sur cette année 2025 pour se concentrer sur la nouvelle réforme 2026, hein. Bah, vu comment ça tourne.
Ouais, si c'est pas le cas, c'est dommage pour eux parce que ne pas être déjà complètement sur l'année suivante et être pas dingue comme ils le sont, c'est dommage. Et s'ils n'ont pas encore pris la décision, ce début de saison peut les inciter à dire bon, du coup, celle-là à la poubelle complète, on passe direct à 2026. Enfin, je pense que dans tous les cas, il faut se projeter. Quand tu as investi sur Adrian Newey et que tu as une nouvelle réglementation devant, Alex, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je mettrais tout dès maintenant, quoi. Je veux dire, je sais pas à quel point c'est important de terminer 7e plutôt que 8e quand derrière t'as Lawrence Stroll qui peut faire la différence, je pense.
Donc, et pas seulement.
Je pense que l'avenir, tu vois, je pense qu'ils sont tous un peu dans les starting blocks. Ils attendent tous la voiture de l'année prochaine, je pense. Tu le sens même dans Alonso. Alonso, il a commencé sa saison ou quoi? Je sais pas.
Attends, Alonso, il dit que... Donc, il termine 11e au Japon. Alonso, il dit que cette place, elle est miraculeuse. Et il estime le niveau d'Aston Martin même pas assez rapide pour être dans le top 18. Alors, bon, bien sûr, c'est de la com', Alex.
C'est du Alonso. Non, mais...
Oui, bien sûr, on sait que c'est du Fernando Alonso. On sait qu'il fait ça pour mettre aussi la pression sur son écurie. Mais malgré tout, les mots, ils sont très forts. Et je ne me souviens pas avoir entendu Alonso parler comme ça depuis son arrivée chez Aston Martin. Je me plante peut-être, hein, mais...
Non, mais surtout qu'il est frustré. Non, mais Alonso est surtout frustré. Ça fait les deux premiers Grands Prix, il ne les termine pas. À chaque fois, il y a quelque chose. Il fait une erreur au Japon durant une des deux séances d'essais libres, une des trois séances d'essais libres. C'est compliqué le début de saison de Fernando Alonso, et même en termes de performance pure au Japon, c'était clairement pas ça. De toute façon, en fait, pour Aston Martin, tous les projets qu'il y a pu avoir, jamais on a dit objectif 2024 ou objectif 2025. Mmh. On a toujours dit objectif 2026. Et en fait, c'est compliqué pour une écurie de pouvoir performer et de pouvoir même extraire, de pouvoir créer même une monoplace séduisante, même j'ai envie de dire ça ainsi, sur l'ensemble d'une seule et même saison, quand en interne tout bouge tout le temps. Il n'y a aucune stabilité, et forcément parce qu'on construit une écurie pour la saison 2026, et même je vais aller plus loin, on construit aussi une écurie avec un moteur qui sera totalement différent en 2026, avec des fondations tout simplement totalement différentes, avec l'arrivée de Honda. En fait, l'écurie n'est pas finie, et comme l'écurie n'est pas finie et est en pleine phase de construction pour amorcer la nouvelle ère de la Formule 1 à partir de 2026, là où Aston Martin sera par contre censé jouer le titre ou du moins les avant-postes, là on pourra juger, mais aujourd'hui c'est impossible pour Aston Martin de pouvoir performer, et ça ne m'étonne rien. Et comme l'a très bien dit Louis, pour te répondre, moi je pense que oui, de toute façon, c'est l'objectif de penser à 2026, de construire 2026 dès maintenant. Ça ne sert à rien de jouer 2025. Mmh. De toute façon, ça n'a jamais été l'objectif d'Aston Martin aujourd'hui.
Ouais. Et pourquoi ils ne peuvent pas le dire? Alors pourquoi ils ne le disent pas, tu vois?
Quand il y a des sponsors. Ouais. Il y a des sponsors. Ouais. Les sponsors, tu leur dis, vous pouvez sponsoriser une écurie qui fera rien de 2025.
Il reste 22 courses, on va rien faire. Vous voulez signer avec nous?
Non, mais ils le savent, les sponsors. Au bout d'un moment, ils sont pas. J'espère qu'ils sont clairs avec les sponsors quand même, parce que le mec qui met de l'oseille et qui voit que t'as des non, ah ouais,
je sais okay. pas, je sais pas. Ah bon, en fait, mais surtout, je pense que
ils mettent des dizaines de millions et ils sont pas au courant de ça.
Non, mais t'as aussi des mécanos, des pilotes, t'as un paquet de gens qui travaillent autour de cette voiture et cette année que tu dois garder quand même un peu en haleine, quoi, parce que. Si tout le monde se croit en vacances dès le mois de mars, ça va, tu vois, ça va pas non plus être bon. Parce que si tu veux que ta voiture 2026 ouais. elle soit bonne, faut aussi que ton équipe 2025 soit concernée, même si. Enfin, tu vois, il faut une dynamique, quoi. Bah,
c'est ça, le truc, c'est que la dynamique, t'es en train de faire exploser ta dynamique avant 2026.
Ouais,
quand même.
Non, c'est dur
de s'en rendre. Après, pour les questions pilotes, c'est Alonso, oui, est frustré parce qu'il a eu des mésaventures sur les trois premiers Grands Prix de cette saison, et même le rythme tout court n'a pas été bon. Mais pour ce qui est de Lance Stroll, alors, bien que je sois un grand défenseur de Lance Stroll et que, pour le coup, je vais rester objectif aussi, il fait quand même le meilleur début de saison qu'il a fait dans sa carrière en Formule 1, hein, en termes de points. Hein, sur les deux premiers Grands Prix, il se met 10 points. Jamais il a fait ça, et jamais aussi, il a aussi tenu Aston Martin avec une dragée haute ainsi. Et même d'ailleurs, je crois qu'au Japon, de mémoire, c'est pas de sa faute un peu tout ce qui se passe. C'est que c'est vraiment la perfo de la monoplace qui n'était pas présente, quoi.
Parlons un peu de Steck également, les gars. Quel début de saison? Bon, ils étaient nulle part l'année dernière. Alex, tu le disais lundi dans le podcast, ouais. Tu comparais à une équipe de F3, ça va mieux. On a vu Bortoleto, on a vu qu'il avait le niveau pour faire des choses. On a vu cette écurie capable de marquer des points. Mine de rien, là, dans le midfield, ça rend les choses un peu plus sympas. À part Alpine, t'as vraiment personne qui est largué. Et encore, Alpine peut quand même se bagarrer un peu pour les points, même s'ils sont plus lents. T'as plus, comme l'année dernière, une écurie comme Steck, là, qui est complètement à la ramasse. Ils ont réussi, eux aussi, à aller chercher de la performance pour cette dernière année. Louis ?
Ouais, ça, moi je suis très très surpris par le début de saison de cette écurie, dans le sens où avec ce qu'on a vu l'année dernière et le fait qu'il y ait une nouvelle réglementation l'année prochaine, un tout nouveau projet, quelque chose comme ça, je m'y attendais pas forcément, tu vois, je m'attendais plutôt une longue attente de l'année prochaine avec des performances de mal en pis et finalement non, et donc c'est super, c'est de rien que pour la compétition, rien que pour les pilotes. Bortoleto aussi, c'est intéressant de le regarder. On rappelle qu'il coiffe pour un point ou un demi-point ou quelque chose comme ça, Isaac Hadjar en Formule 2 pour le championnat. C'est aussi un pilote qu'on a envie de voir, puisqu'il sera peut-être amené justement à rester dans ce baquet ou pas. Hein. Lui, ça va être une question quand même, parce que peut-être qu'Audi, ils vont avoir des exigences.
Et j'ai 6 points de plus qu'Alpine, surtout ça, moi qui me fait de la peine. Je me dis putain, merde.
Ouais, Hülkenberg en Australie hein, qui a marqué les 6
ouais.
points.
Ouais, mais après, ouais, Hülkenberg, j'ai toujours bien aimé ce pilote, ce qu'il renvoie là. Il est toujours. Assez froid, assez calme, il fait souvent ce qu'il doit faire. Moi, j'aime bien ce pilote et Bortoleto, j'ai envie de voir ce que ça donne. Donc, c'est vrai que s'il remonte un peu dans la hiérarchie, ça devient une écurie où tu rejettes un œil dessus, alors que ça faisait, enfin, je sais pas vous, mais moi, la saison dernière, on oubliait qu'ils étaient là, quoi. C'était gênant même.
Ouais. Mais tu vois, on parlait de la comparaison, Alex, avec Aston Martin, parce que Steck pourrait être complètement et va probablement être aussi dans ses réflexions au bout d'un moment avec l'arrivée d'Audi, de se dire bon, allez, on met tous nos œufs dans le panier saison 2026. Sauf que eux, tu sens qu'ils essayent quand même de lancer une dynamique d'écurie qui va les emmener sur 2026 en ayant engrangé de la confiance. Tu sens que franchement, l'approche de ces deux écuries est complètement différente.
Ouais, elle est différente, mais pour rappel, comme tu me l'as rappelé au début, j'avais dit que Sauber, c'était une écurie de F3 l'an dernier. Ils étaient tellement loin que de toute façon, tu pouvais pas être plus bas que ça. Là, aujourd'hui, en fait, Sauber, avec l'impulsion d'un directeur technique qui est très talentueux, qui était à l'époque du côté de chez McLaren, mais ça ne pouvait pas fonctionner dans l'organigramme de McLaren à l'époque, qui est James Kay. James Kay, lui, il a dit, bon, nous, on a un projet en 2026, mais avant tout, 2025, faut aussi qu'on se forme à être une équipe compétitive. Alors, au niveau de Sauber, qui est parti de très long l'an dernier, et c'est pour ça qu'il a mis une monoplace qui est quand même assez différente par rapport à l'an dernier, notamment avec une nouvelle monoplace, une nouvelle monoplace qui est aussi nouveau au niveau de la suspension. Il y a beaucoup d'éléments qui ont changé au niveau de la Sauber, ce qui permet en fait tout simplement de se mettre à niveau pour être compétitif. À leur niveau, bien sûr, on voit Hülkenberg et même Bortoleto qui a été très bon en séance de qualification et qui a été aussi très bon en course. Malheureusement, il a eu des petites erreurs qu'il y a pu y avoir en course en Australie et par-ci par-là. C'est plus des erreurs d'inattention et des erreurs de jeunesse, on va dire ça ainsi. Mais pour ce qui est de Hülkenberg, c'est la force en présence de Sauber et on voit vraiment à quel point c'est le pilier pour construire Sauber vis-à-vis de Audi pour l'avenir en 2026. Donc en fait, Sauber, c'est comme tu as fait le parallèle. C'est une situation qui est tellement différente par rapport à Aston Martin qui, eux, ils se construisent à leur manière avec des moyens qui sont extrêmement impressionnants, alors que Sauber, avec Audi qui a eu beaucoup de problèmes financiers dernièrement, notamment avec le scandale du Volkswagen Gate, pour toutes ces raisons-là, Sauber doit avoir une approche différente parce qu'il faut composer avec toutes les problématiques de Audi, qui plus est avec des problématiques même politiques avec la Formule 1 pour Audi.
Ouais. Tiens, je suis en train de voir qu'il y a Carlos Sainz en conférence de presse et qu'il a répondu. Vous avez vu qu'il avait pris quand même 10 000 euros d'amende parce qu'il a été arrivé 5 secondes en retard. Il était aux toilettes. Il a raté l'hymne national là, du Grand Prix du Japon. Il a pris 10 000 balles. Ouais, il n'est pas très content.
Il finira le mois mieux que moi quand même.
Ah oui, ben ça c'est une certitude. Après, toi tu restes un intermittent, hein, mon Louis. D'ailleurs, tu n'es pas payé sur ce podcast. On en profite pour le dire que si jamais vous voulez financer le paddock RMC, vous pouvez nous envoyer un petit mail. Alex, tu voulais parler aussi de la crise qu'il y avait un peu à la FIA là. Il s'est passé quand même quelque chose de dingue. Il y a le vice-président Robert Reid qui a démissionné avec effet immédiat. Et il a mis un énorme tir à son boss Ben Sulayem. Tu sens la bonne ambiance. Il faut que tu nous expliques un peu ce qui s'est passé et quel impact ça peut avoir sur la F1.
En fait, il y a une énorme fuite des têtes pensantes du côté de la FIA parce qu'il y a un profond désaccord entre le personnel important en termes de poste et la présidence de la FIA qui est Mohamed Ben Sulayem parce que Mohamed Ben Sulayem, il y a des actions qui interrogent du moins et qui m'amènent à penser que Mohamed Ben Sulayem doit quitter la FIA le plus vite possible parce que là, on arrive à un point où même ce numéro 2, le vice-président de la FIA, a quitté tout simplement la FIA. Il a envoyé un tir comme tu l'as dit, notamment avec une phrase qui est assez forte parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'ingérence dénoncés auprès de Mohamed Ben Sulayem, qui est le président de la FIA, je le rappelle. Il a dit Robert Reid, quand j'ai accepté ce rôle, c'était pour servir les membres de la FIA, pas pour servir le pouvoir. Cette phrase, c'est un tir monumental pour dire en gros, voilà, Mohamed Sulayem, il se croit patron président absolument intouchable, alors qu'il régit tout simplement une fédération. Une fédération qui sert justement à être, on va dire ça ainsi, dans la pureté des règles et dans la pureté pour régir tout simplement les règles de tout sport automobile qui sont sous l'égide de la FIA. La Formule 1, la Formule 2, la Formule 3, la Formule AI, le championnat du monde WRC, comme le championnat du monde d'endurance, et j'oublie d'autres championnats forcément. Mais c'est ça en fait qu'il faut absolument prendre en compte, c'est qu'on est dans une situation où la FIA, qui régit l'ensemble des sports auto et majeurs dans le monde, est en pleine crise. Comment vous voulez qu'on puisse avoir des choses sensées dans le sport auto aujourd'hui avec une fédération qui est en pleine explosion, plutôt en pleine implosion, avec les départs majeurs des plus grosses têtes pensantes de la fédération. J'ajoute même que l'an dernier, pour donner un exemple, l'an dernier, on a eu l'éviction, tout simplement, d'un des directeurs de course, Steve Swittish, comme ça, du jour au lendemain, sans aucune raison, juste parce qu'il était en désaccord avec Mohamed Ensoleyem. Voilà.
Ouais, c'est vrai que c'est pas trop un processus démocratique. On va pas... Mais il n'y avait pas des élections là, à la FIA là, qui est normalement c'est pour bientôt, non?
Il me semble que c'est 2027, donc ça fait encore loin.
Loin quand même. Ah, je croyais que c'était bien plus proche.
Si ça avait été plus proche que ça, on aurait pu imaginer aussi une stratégie du numéro 2, tu vois. Genre tu sors en faisant oh là là non mais c'est un tyran machin et tout, et les gens se disent ah bon on va voter pour toi pour le prochain.
Je rajoute que Robert Reid faisait partie de la campagne de candidature de Mohamed Ensoleyem à l'époque, hein.
Ouais d'accord.
C'est vraiment un fervent soutien à la base et il se détache et, bah, de toute manière c'est la guerre. Tiens, petite info aussi, la FIA qui va réunir d'ailleurs les motoristes à Bahreïn, vous avez vu pour le retour des V10 là, c'est en train de se concrétiser, je sais pas, en tout cas ils avancent leur pour ce projet de retour des V10, et donc il y a tous les motoristes là qui sont amenés à échanger pendant le week-end à Bahreïn pour le retour des V10.
Bah oui, non, c'est une énorme. Non mais excusez-moi, c'est une énorme connerie ça.
Ouais.
Mais
je suis complètement d'accord avec toi.
Mais c'est quand même exceptionnel. On est en train de nous dire que on a fait une réglementation pour 2026, que ce soit aéro mais également moteur, pour finalement, au bout de 3 ans de prévoyance par rapport à ça, certaines écuries disent « Ah, on n'est pas si sûr que ça va fonctionner. » Sous-entendu, on a mal travaillé. Mercedes va être beaucoup trop forte et Ferrari va être beaucoup trop forte. Et de l'autre côté, on a vendu quand même un produit qui est l'ère de 2026 pour des moteurs plus simplifiés, des moteurs hybrides. On rappelle, des moteurs plus simplifiés, donc pour attirer gros constructeur Audi qui a tout abandonné, le WEC et même le Dakar, pour pouvoir se concentrer même monétairement vis-à-vis de la Formule 1, et aussi le retour de Honda qui avait dit qu'il partait au début, puis ils ont vu 2026, ils ont dit ah ça nous intéresse, on revient finalement pour être avec Aston Martin dès 2026, pour finalement leur dire ouais alors vous êtes revenu même, mais en fait on va pas faire ça. Mais c'est un mensonge industriel absolument effarant de faire ça. C'est totalement scandaleux de faire ça.
Oui, non. Mais alors, pour moi, comment dire, le retour des V10, oui, mais comme ça, non. Voilà. C'est genre, ça n'a pas de sens. Comme tu l'as dit, il y a des choses qui ont été mises en place. Ça prend du temps. Même si demain tu décides de le faire, comment on fait comme ça là, donc autour de la table, ils sortent une feuille A4. Alors, on va faire un V10 comme ça. Tu vois, ça prend un temps fou de faire une réglementation. Ça prend de la... Enfin, moi, de faire ça à l'emporte-pièce comme ça, ça fait tout sauf sérieux. Tu parles quand même de la Formule 1. Je pense aussi, comme le dit Alex, enfin, les constructeurs, c'est bien d'avoir un sticker sur la première Formule 1 pour ta pub, mais tu viens aussi dans toute une logique R&D. Il faut que c'est une cohérence aussi avec tes véhicules de série. Donc, la seule chose positive, c'est qu'apparemment, il y a une espèce de réunion. Enfin, tout le monde va se mettre autour de la table. J'espère juste que si les constructeurs majoritairement disent c'est une bêtise, j'espère que la FIA va dire dont acte, c'est une bêtise et on prend notre temps. Le truc qui me dérangerait vraiment, c'est que on sorte de la réunion avec des constructeurs qui sont pas chauds du tout et la FIA qui s'entête. Parce que là, à moyen terme, c'est une fuite des constructeurs, alors qu'on était très contents de les voir revenir. Et comme on les voit revenir en WEC, tu vois, enfin c'est quand même autre chose que quand il y a des grandes écuries, des grands logos, donc vraiment, moi je trouve ça assez dingue et j'espère que ça va pas aboutir comme ça.
Et, Et même pour rajouter, il faut savoir que Audi a effectivement fait un communiqué, a communiqué publiquement en disant que bah non, ils sont pas d'accord avec cette idée-là. Et en plus, Fernando Alonso, alors tu disais que les V10 sont de pourraient être de retour. Est-ce que c'est une bonne chose ou non? Toi, tu en penses que oui, mais il faut savoir que Fernando Alonso lui-même, qui a quand même été, j'aime bien le dire, mais champion du monde en 2005-2006 sous Jacques Chirac, donc à l'époque des V10, il a quand même dit, Fernando Alonso, qu'il n'était pas pour, en fait, finalement, le retour des V10, parce qu'aujourd'hui, on a les moteurs les plus puissants et les plus efficients dans l'histoire de la Formule 1. C'est des beautés technologiques. Et revenir aux V10, bah, on perdrait un petit peu l'essence de la Formule 1, qui est le laboratoire de l'automobile de demain.
Ouais, ouais, non, c'est ça. Je pense qu'en termes d'innovation, ouais. Moi, quand je te dis le V10, oui, je te dis, en gros, ça me ferait plaisir d'entendre des moteurs qui font des bruits de dingue. Mais derrière, là où je suis complètement Alonso dans son avis, c'est que, en effet, pour moi, avant toute réglementation, plaisir, spectacle, hein, une réglementation de moteur de Formule 1 doit être en cohérence. Voilà, ça doit être, comme tu dis, le bijou technologique de l'époque. C'est-à-dire, on sait pas faire mieux. C'est pas pour revenir sur quelque chose qu'on a déjà fait, juste pour que ça fasse plus de bruit. En revanche, si on veut faire un bijou technologique de nouveau qui fasse un peu plus de bruit que celui-là, pourquoi pas, mais faire, enfin, il n'y a rien qui va dans cette affaire de toute façon. Genre, tu te mets autour de la table le 10 avril, alors les gars, en fait, dans 6 mois on annule tout, et non mais tu vois, enfin, genre, c'est risible.
Non mais, oui. Non mais tu sens même que c'est même une opération de communication et que ça peut pas aller au bout, cette histoire. Ils peuvent pas braquer certains constructeurs et certains motoristes comme ça, c'est pas possible. Dernière info, les gars, ça va beaucoup bouger là lors de la première séance d'essai. Verstappen, Russell, Leclerc, Alonso, Carlos Sainz, ils cèdent tous leur monoplace là à des pilotes d'essai. Y a qui chez Mercedes, ce sera Vesti qui va rouler, ouais.
Et le fameux Ryu Hirakawa, anciennement Alpine, pour 6 mois, pour 2 mois, et puis maintenant chez As.
Avec As, il y a Dino Beganovic qui va rouler dans la Formule, dans la Ferrari de Leclerc, et Verstappen, il va laisser sa place au pilote japonais là, Ayumu Iwasa. Donc voilà, c'est voilà,
line-up 100% japonais chez Red Bull, hein.
Et ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, ouais, Tsunoda Iwasa, du coup line-up 100% japonaise. Ça, je sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire, tiens, même sur une séance d'essai, à voir.
Mais je réfléchis par rapport à Super Aguri à l'époque. Je pense que oui.
Une super. Enfin, je veux dire, c'est pourquoi autant? Parce que Bahreïn, c'est un grand prix que les pilotes connaissent tellement et que les voitures tournent aussi. Tu te dis potentiellement. Enfin, moi, je le verrais comme ça. Il y a moins à perdre à ne pas faire une séance à Bahreïn que sur d'autres circuits, quoi.
Ouais. Bah, ils vont pas planter la monoplace, quoi.
Oui, et puis toi,
les gars, merci beaucoup.
Comme pilote, t'as, en une séance d'essai, tu connais suffisamment le circuit pour te remettre au niveau, quoi.
Ouais, ouais. Merci beaucoup, le Grand Prix de Bahreïn. Je vous rappelle l'horaire, c'est à quelle heure cette histoire?
C'est l'après-midi, grâce Matt.
Ah bah oui, grâce Matt,
c'est à
17h.
18h ou 17h?
18h.
Ouais. Ouais, ça va faire une longue grâce Matt, on va peut-être se lever avant.
Je l'ai dit tout à l'heure. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure. 17h la course, 18h c'est les qualifs, voilà. Samedi, je vous rappelle que vous pouvez noter le paddock RMC. Il fait 36 degrés à Bahreïn, les gars, ce week-end. Hein. Ils vont avoir chaud, les pilotes, ça va se déshydrater. Hein.
Un petit prono, un petit vainqueur, Alex.
Un petit vainqueur.
Oula, le vainqueur. Ouais. Vous savez quoi? Charles Leclerc.
Oh, oh là là. Oula. Et il met toutes ses économies dessus.
There is something wrong with the engine.
Je suis pas sûr quand même. Moi, je vais mettre Piastri, moi. Moi, je te dis Piastri, moi. Ouais. Sécure, plat du pied, sécurité, Oscar.
Ouais, allez, j'en sais rien. Verstappen.
Bah, réfléchis pas trop, de toute manière, t'en mets pas une dedans depuis le début de saison. Donc, vas-y. Hein.
Verstappen, on verra bien.
Allez, excellent. On se retrouve lundi pour débriefer tout ça avec Jean-Luc Roy. Avec Jean-Luc Roy. Bon week-end et vive la Formule 1 sur RMC. Bye bye.
Le paddock RMC.